Info. Le Décryph Éco avec Celsi.fr, la solution internet et mobile pour piloter l'activité et développer la croissance de votre entreprise. Celsi. S-E-2-L-S-Y.
Le débrief éco du dimanche soir, c'est un nouveau rendez-vous du 17-20 week-end avec vous, Emmanuel Cuny, bonsoir.
Bonsoir Catherine, bonsoir à tous.
L'économie, évidemment, ce sera l'un des gros enjeux de la campagne présidentielle cette année. Alors on va donc se retrouver tous les dimanches pour décrypter l'actu éco de la semaine, à la fois avec des économistes, mais aussi avec des groupes de réflexion, parce qu'on sait très bien qu'ils sont très actifs aujourd'hui, très influents, et notamment auprès des politiques.
Oui, effectivement, et c'est d'ailleurs à l'initiative du cercle des économistes que ce débat s'est créé et va s'amplifier, je dirais, d'ici l'élection présidentielle. Et France Info se fera le relais de ces débats, donc vous l'avez dit Catherine, de manière hebdomadaire. Et bien sûr, il va y avoir du grain à moudre, car les sujets vont se multiplier. On le voit déjà en cette rentrée d'ailleurs.
Et justement, le sujet qui a agité les conversations de la semaine, c'est évidemment la démission d'Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, l'ancien ministre, devrais-je dire. Il a quitté Bercy mardi dernier. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, Emmanuel, concerne la politique économique de François Hollande et surtout sa marge de manœuvre dans les 8 prochains mois.
Oui, alors effectivement, on ne va pas refaire Emmanuel Macron, sa vie, son œuvre, mais plutôt voir effectivement les sujets en prospective. Qu'attendre maintenant des 8 mois? On sait un Macron remonté contre le système politique français aujourd'hui, contre le PS également. Il l'a redit à la mi-journée, c'était sur France Inter dans l'émission Questions politiques.
Le Parti socialiste a une vision commune sur ce que doit être l'Europe? Non. Sur ce que doit être la société ouverte? Non. Sur ce que doit être le travail dans notre société et les réformes nécessaires pour réussir dans un monde ouvert? Non. Est-ce que les Républicains ont aujourd'hui un consensus sur ces mêmes sujets? Non.
Que faire dans les 8 prochains mois pour en débattre ce soir? Jean-Hervé Lorenzi, vous êtes professeur à Paris-Dauphine et président du Cercle des économistes, partenaire de notre émission. Bonsoir.
Bonsoir.
Face à vous, Jean-Marc Daniel. Bonsoir.
Bonsoir.
Professeur à l'École supérieure de commerce de Paris et membre du think tank Institut de l'entreprise. Emmanuel, il a été quand même très offensif aujourd'hui, Emmanuel Macron.
Oui, alors, la question que vous posiez tout à l'heure, est-ce que maintenant, ça va changer quelque chose réellement, cette attitude, dans, non pas la campagne de François Hollande, mais disons les 8 mois qui viennent. Notamment, il dit cela, M. Macron, à gauche comme à droite, les postures ne correspondent pas à la réalité. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Hervé Lorenzi?
Moi, je pense que les 8 mois qui viennent sont tout à fait déterminés, sauf accident, qui serait évidemment très dommageable, évidemment des mécanismes de terrorisme. Mais sur le fond, on sait ce qui va se passer. La croissance sera peut-être d'un 4 cette année, un 4, un 5. Au début, je pensais que ce serait plutôt légèrement supérieur. L'année prochaine, on sera à peu près sur un train équivalent. Et au fond, la marge de manœuvre est très très faible. Cette idée de modifier la fiscalité à quelques mois des élections est évidemment beaucoup d'agitation. En revanche, contrairement à ce que beaucoup pensent, et peut-être mon ami Jean-Marc pense, en réalité, il y a dans cette affaire de loi El Khomri, il y a réellement des choses qui sont tout à fait réelles, qui peuvent faire évoluer les choses. Et moi, mon idée est assez simple, c'est qu'il faudrait arriver à installer les deux lois clés économiques qui ont été développées dans les 2 dernières années. La loi Macron, qui n'a pas bouleversé le monde, mais qui est quand même un signe plutôt de plus de concurrence. Et la loi El Khomri, qui était quand même une modification assez significative, beaucoup plus significative qu'on a pensé, du fonctionnement du marché du travail.
Jean-Marc Daniel.
Moi, je pense qu'il va se passer des choses beaucoup plus graves que ce que nous dit Jean-Hervé Lorenzi. Parce qu'on le voit bien, le départ de Macron, c'est le départ des derniers raisonnables. Mélenchon avait dit, maintenant que les dégoûtés sont partis, il reste les dégoûtants. Je pense que maintenant que les responsables sont partis, il reste les irresponsables. Mmh. On le voit d'ailleurs, Madame Touraine, Marisol Touraine, qui dit, mais on est bientôt à l'équilibre de la sécurité sociale. On le voit au travers des annonces de baisse d'impôts. On est dans une situation d'amélioration purement conjoncturelle de la situation économique et notamment des finances publiques. On va être, grâce à cette amélioration et au déroulement cyclique, dans une situation où on sera juste en dessous des 3% et de nos engagements européens. Et on commence déjà à dépenser l'argent qu'on n'a pas encore reçu. Alors qu'on devrait faire un effort pour profiter de cette amélioration cyclique, pour redresser durablement les finances publiques, véritablement baisser les dépenses publiques, on est parti dans une logique, dans un cycle de démagogie. Les 28%, quand vous y réalisez qu'on a annoncé qu'on ferait 28% d'impôts sur sur les sociétés, mais avec des conditions telles que je pense que les seuls emplois qui vont être créés vont l'être dans le domaine des conseillers fiscaux. C'est-à-dire les gens qui vont trouver un emploi, ce sont ceux qui comprendront la loi. Quel est l'enjeu de tout ça? C'est de faire des annonces et des annonces de fuite en avant.
Il y a des points de clivage vraiment importants, j'aurais voulu
Oui, Jean-Marc est en train de développer un discours, j'allais dire, de fin du monde. On est, la France est en train de s'effondrer, on n'est même pas au centre de la Terre, on a dépassé ce truc. Non, en réalité, on fera, mais tu l'as dit toi-même, on fera récemment ce résultat, un peu traficoté d'ailleurs, un peu sur les chiffres, mais des moins de 3% qui vont bien pour Maastricht. On aura un taux de croissance qui sera, j'allais dire, très médiocre. Mais l'un dans l'autre, l'Europe se porte pas merveilleusement bien. On a un peu de redémarrage du marché de l'emploi qui est, j'allais dire, non pas exceptionnel, mais qui permet comme là de baisser de manière homéopathique, mais le taux de chômage, tout ça fait qu'il ne se passera rien. Et quant à
donc
l'annonce
la croissance n'aidera pas forcément
de mon ami Jean-Marc,
le candidat,
elle me paraît un peu exagérée, surjouée.
Donc la croissance n'aura rien à voir dans cette campagne, Jean-Marc Daniel.
La croissance, elle aura à voir, mais la croissance, elle est totalement extérieure aux décisions qui ont été prises par le gouvernement. Et la croissance, elle a été portée notamment ces derniers mois par le contre-choc pétrolier, et on est au bout du contre-choc pétrolier. Et cette phase de croissance qu'on aurait pu utiliser effectivement pour avoir un discours de responsabilité, de redressement de la situation, est relativement gaspillée. Il y a un autre indicateur que je trouve inquiétant, c'est que le départ d'Emmanuel Macron remet en avant un bloc avec un discours sur la politique industrielle, dont la traduction a été l'annonce officielle par le gouvernement français du refus de continuer à négocier avec les États-Unis le traité transatlantique. Alors le gouvernement français n'est pas le seul, mais le gouvernement français s'est porté en pointe dans un discours assez passéiste, assez protectionniste assez menaçant sur l'avenir économique du pays.
Jean-Marc, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire que l'Allemagne, qui est le premier exportateur par tête d'habitant au monde, donc est le pays le plus ouvert au monde, en tout cas pour ses exportations, est, j'allais dire, protectionniste. Or, l'Allemagne a décidé, avec le gouvernement français, de mettre temporairement fin aux négociations sur l'accord des Américains.
Donc, au sein de l'Allemagne, il y a un débat. C'est-à-dire que le vice-chancelier, qui est social-démocrate, a effectivement soutenu la position française, mais le corps politique allemand, dans son ensemble, est plutôt favorable à la poursuite, ou en tout cas à la redéfinition de la négociation avec les États-Unis, et non pas à la rupture de la négociation.
On va marquer une pause, vous restez avec nous, bien évidemment, Jean-Hervé Lorenzi, Jean-Marc Daniel et Emmanuel Cugny. On va parler du G20 dans un instant.
Le Décryph Éco avec Celsi.fr, la solution internet et mobile pour piloter l'activité et développer la croissance de votre entreprise. Celsi, S-E-2-L-S-Y. Radio France présente Musique et cerveau, un cycle exceptionnel de conférences au studio 105 de la Maison de la Radio à Paris, animé par le professeur Hervé Platel de l'INSERM. Au programme du samedi 10 septembre, Musique du futur, cerveau du futur. Comment le numérique modifie les pratiques musicales? Les nouvelles technologies peuvent-elles nous aider à soigner le cerveau? Chercheurs et experts vous présenteront les dernières avancées et les résultats de leurs travaux. Passionnés, curieux, professionnels de la santé, de l'enseignement ou de la musique, inscrivez-vous sur musique-santé.org. Avec MGEN, Mutuelle Santé et Prévoyance, la protection sociale de 4 millions de personnes. France Info. 17h-20h. Catherine Potier.
Et la suite du débrief éco, dans une minute, on parlera du G20 qui s'est ouvert aujourd'hui à Pékin en Chine. François Hollande est arrivé sur place en fixant ses priorités, ratifié au plus vite l'accord de la COP21 sur le climat. La Chine et les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient le signer, on en parlera. 19h20, l'info, Yasmina Adila.
En Allemagne, une élection régionale très compliquée pour Angela Merkel. Les électeurs du Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, au nord-est du pays, ont voté aujourd'hui. Les premiers sondages donnent le parti anti-migrant en seconde position devant celui de la chancelière. Marisol Touraine annonce une inspection du lactarium d'Île-de-France. Deux bébés sont morts après avoir été nourris avec du lait maternel, lait qui provenait de ce centre de collecte. L'un ministre de la Santé explique que la distribution est suspendue par précaution. Une bactérie serait à l'origine de ces deux décès. Nathalie Kosciusko-Morizet lance un appel. La candidate à la primaire Les Républicains était à l'université d'été de son parti aujourd'hui à La Baule en Loire-Atlantique. Elle est toujours à la recherche de parrainage pour concourir aux primaires. « J'ai besoin de vous », aurait-elle déclaré. Pour lui, en revanche, on ne sait toujours pas s'il sera candidat. Emmanuel Macron était l'invité de Questions politiques sur France Info et France Inter aujourd'hui. Et il n'a pas répondu à la question de savoir s'il serait candidat à l'élection présidentielle de 2017. Pour lui, la question, je cite, « se posera à un moment ». 4 cyclistes victimes d'une agression en pleine course. Pendant la première étape du Tour cycliste de La Réunion, un spectateur a bloqué la ligne d'arrivée avec une barrière. Il a été interpellé par la police. L'organisateur de la course a annoncé sur France Info qu'il allait porter plainte. Le Tour continue, mais cette étape ne sera pas comptabilisée.
France Info. Le Décryph Éco avec Celsi.fr, la solution internet et mobile pour piloter l'activité et développer la croissance de votre entreprise. Celsi, S-E-2-L-S-Y.
Avec Emmanuel Cunis, ce débrief éco, et nos invités Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle des économistes, et Jean-Marc Daniel du think tank Institut de l'entreprise. Le G20, Emmanuel, c'est à Pékin. C'est surtout le dernier du quinquennat de François Hollande. Oui. C'est donc important pour lui et il a fixé ses priorités.
Oui, alors le problème, c'est que le G20 fait partie de ces grandes réunions mondialistes qui parlent souvent très peu finalement à l'opinion. C'est totalement abscon. La gouvernance mondiale, c'est une utopie ou une réalité? Jean-Marc Daniel.
Je crois que c'est largement devenu une utopie, c'est-à-dire que les gens se réunissent avec comme objectif de fixer la date de la prochaine réunion. Ils prennent des décisions qui sont assez peu opératoires. Regardez, là, on est en train de finaliser la COP21 qui avait eu lieu au mois de décembre dernier. Tous les auditeurs sont peut-être en train de se poser la question, mais qu'est-ce qu'on a fait? Oui. Qu'est-ce qu'on a fait entre décembre et aujourd'hui? On salue comme une victoire le fait que les États-Unis et la Chine sont d'accord, qui représentent 40% de la pollution, mais on croyait, vu ce qu'avait fait M. Fabius, vous vous souvenez, le marteau, l'enthousiasme, que c'était réglé depuis le mois de décembre.
C'était une belle mise en scène.
Donc tout ça, ce sont des mises en scène. Je crois d'ailleurs qu'il y a un vrai problème derrière, qui est le problème du réchauffement climatique, et que les outils qui sont utilisés étant purement entre les mains des bureaucraties, on n'avance pas sur ce sujet. Il y a une attente des populations, il y a un vrai problème. Et les bureaucraties sont en train de détourner les objectifs en question.
Mais ça veut dire que ça ne sert à rien, un G20, Jean-Hervé Lorenzi ?
Moi, je pense que c'est très utile, mais je suis d'accord avec Jean-Marc, c'est une utopie. C'est-à-dire que cette idée de faire une gouvernance mondiale, c'est sorti des années 2008, c'était sympathique, mais c'est évidemment irréaliste. En revanche, une coopération forte, je rappelle que les grands pays ont réussi à certains moments de grandes fortes tensions à trouver des coopérations, c'est les accords du Plaza sur les taux de change, etc.
Donc, mais les banques centrales aujourd'hui,
les banques centrales sont dans une situation de non-coopération. Il faut bien comprendre que jamais le monde n'a été aussi peu coopératif qu'aujourd'hui.
C'est-à-dire donc aussi mal dirigé
parce que les intérêts sont très divergents et tout simplement parce que, comme je vois déjà l'agitation de mon ami Jean-Marc sur le marché, parce que des grandes décisions politiques qui sont du domaine des États ne peuvent pas être prises aujourd'hui, tout simplement parce que personne ne voit clair sur ce qui est son intérêt, ce que peuvent être les accords à venir, etc. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous en sommes à un stade qui est un stade assez, j'allais dire, négatif par rapport à ce qu'on a connu dans le passé.
Et individualiste.
Et très individualiste.
Jean-Marc Daniel.
Deux remarques. La première, Jean-Hervé vient de parler des accords du Plaza. Je pense que les auditeurs se souviennent que les accords du Plaza ont vécu 6 mois. Et donc, la coopération internationale incarnée par de tels accords, à mon avis, confirme ce que je disais. C'est-à-dire, tout ça est assez vain. La deuxième remarque que je fais, c'est qu'il y a un vrai problème. Le réchauffement climatique est un problème perçu comme tel par l'ensemble de la population. Et donc, on attend des réponses. Donc, il y a la réponse bureaucratique des États qui consiste à se réunir, à multiplier les sommets, les traités qui ne sont pas appliqués. Et puis, il y aurait une réponse concrète de marché qui consisterait à organiser un vrai marché de droits à polluer, permettant effectivement à chacun de savoir quelle est sa responsabilité, quel est le coût de son action en termes de pollution. Et
alors,
quand quelqu'un sait quel est son coût, quelqu'un réagit et corrige son attitude.
Il y a quand même du concret dans ce G20, c'est les résultats de la COP21 avec la ratification ce week-end par la Chine et les États-Unis de ce traité. Je rappelle rapidement que ce texte vise à contenir le réchauffement climatique sous le seuil de 2% dans les prochaines décennies. Une ratification bienvenue aux yeux de la ministre de l'écologie, Ségolène Royal.
Il était temps et en même temps c'est un exploit. Ce qui est là tout à fait remarquable, c'est que ce sont les pays les plus pollueurs qui prennent en premier leurs responsabilités. Ça mérite d'être souligné dans un monde où il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles. Voici une bonne nouvelle et en plus c'est une bonne nouvelle qui a quelque chose à voir avec la paix, avec la sécurité.
Alors pour l'instant, on n'a que 42 pays qui ont signé. Il en faut 55 avec d'autres intérêts, évidemment. Pourquoi ça traîne, Jean-Hervé Lorenzi?
Parce que...
Là, tout le monde est concerné, c'est du concret.
Parce qu'on a eu une version un peu simplificatrice du fonctionnement du monde. Je rappelle juste à mon ami Jean-Marc Daniel que la Société des Nations, après la Seconde Première Guerre mondiale, avait été adoptée par tout le monde et refusée finalement par le Sénat américain. Donc tout ça est plus compliqué. Tout simplement parce que chaque pays fait ratifier par ses propres instances représentatives un accord qui n'a été jusqu'alors que signé par des gouvernements. Dans les faits, c'est une excellente nouvelle que la Chine et que certes, enfin, l'aspect représentatif est peut-être un peu moins présent, mais que les États-Unis soient finalement aillent signer. Ils ne l'ont pas encore fait, ils vont le faire demain ou après-demain.
Alors, si on revient quand même dans le cadre de notre campagne à nous en France, quelle place devra occuper la question énergétique? Est-ce que l'environnement, évidemment, on sait que ça a une place, mais quelle ampleur ça doit prendre dans le cadre de cette campagne? Jean-Hervé Lorenzi, puis Jean-Marc
Daniel. Oui, peut-être juste deux mots. Évidemment qu'il faut...
Quelle bonne politique, finalement.
Évidemment que la trajectoire de croissance que nos pays, et notamment le nôtre, connaîtront, intègre toute une dimension qui est une dimension qui... intègre le numérique, l'environnement, enfin tout ce que...
Enfin,
ce que d'ailleurs, Macron
ça,
a très bien expliqué
ce matin. Une fois que vous avez dit ça, c'est pas très concret, pardon.
En revanche, je crois qu'il ne faut pas le mettre de façon punitive, comme ceci a été fait dans la campagne précédente avec « il faut absolument baisser l'électricité d'origine nucléaire de ceci ou de cela ». Je crois qu'il faut le mettre de manière positive. Alors là, je rejoindrai assez volontiers Jean-Marc sur l'idée qu'il peut y avoir des incitations de type de marché. Et puis, il faut peut-être, je ne sais pas, considérer que la transformation de la plupart de nos logements, essayer d'avoir des coûts thermiques beaucoup moins importants, etc., etc. Tout ça, c'est positif. Ça, c'est la croissance.
Jean-Marc.
L'environnement n'est pas l'ennemi de la croissance,
Jean-Marc
si on
Daniel.
Croit intelligemment.
Oui, je crois que c'est un véritable enjeu. D'ailleurs, Jean Tirole, notre prix Nobel, avait dit qu'il fallait accepter l'idée qu'on perdrait 3 à 4% de notre pouvoir d'achat. Et moi, je dis, en face de ces pertes de pouvoir d'achat, il y aura un bien-être accru si on prend des mesures pour défendre l'environnement. Mais il faut les prendre de façon concrète. On le voit bien, la taxe carbone a été plus ou moins torpillée dans le précédent quinquennat. Donc, c'est un sujet qui n'est plus à l'ordre du jour, alors qu'il devrait de nouveau l'être du jour. Et encore une fois, je maintiens, si on veut inciter les gens à se comporter de façon responsable vis-à-vis de l'environnement, il faut recréer un marché des droits à polluer. Ce marché est une façon à la fois efficace, simple et tout à fait susceptible d'être mise en place. Sauf que comme ça échappe directement aux bureaucraties et aux ministères, en général, on ne veut pas passer par ce genre de mesures. Pourtant, c'est là qu'est la solution pour améliorer la situation.
Très rapide le mot.
Oui,
très
non, c'est ce qui nous sépare, c'est que le marché des droits pollués, il est évidemment fixé dans ses règles par des États et que les États, ils continuent à exister. On joue bien cette espèce d'utopie. C'est une nouvelle utopie qui est née ce soir.
Merci à vous.
Voilà.
Merci à vous. On va essayer de fuir les utopies dans l'avenir. Merci à vous, Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, qui sera tout régulièrement, en tout cas, au micro France Info le dimanche soir. Jean-Marc Daniel, professeur à l'École supérieure de commerce de Paris, membre de l'Institut de l'entreprise. Emmanuel Cuny, bien évidemment, bonne semaine.
À la semaine prochaine.
Et on se retrouve dimanche prochain.